Chapitre 6. Le pacte de Gray's Inn. L'horloge du temps, qui marche si vite pour les amoureux, va à peu près du même pas pour les logeurs en garni et les fournisseurs. Ce qui fait que, pour vivre, Oakhurst avait à se creuser la tête chaque matin, et l'éclat des beaux yeux de Charlotte ne l'aidait guère dans cette besogne-là. Il n'y avait pas de repos pour Paget et son protégé, mais l'ingénieux capitaine s'arrangeait de façon à ce que ce fût Valentin qui eût le plus à produire, et lui, Horatio, le plus à consommer. L'élève était plus docile que jamais, il semblait se soucier fort peu de ses intérêts, et ne demandait qu'à servir son maître avec l'aveugle fidélité d'un caniche. Depuis la malencontreuse petite affaire de Spa, Paget avait trouvé le moyen de vivre d'une façon à peu près tranquille en apparence, sinon honorable. Il avait fallu au capitaine beaucoup d'adresse pour se tirer de ce mauvais pas, et peut-être que le souvenir des risques qu'il avait courus n'avait pas été sans influence sur la ligne de conduite qu'il s'était imposée depuis. « La position était inquiétante, Valentin, disait-il un soir à son compagnon. Et si je n'avais pas pris les choses de bien haut en faisant sonner aux oreilles de ces coquins mon grade de capitaine, je ne sais pas comment cela aurait tourné. Il aurait pu se faire qu'on vous entourât la cheville d'un anneau de métal et qu'on vous envoyât réfléchir un peu plus loin en la compagnie, avait dit en riant Valentin. Et à votre place, je n'userais plus des prérogatives du roi de ce côté du canal. » Le capitaine lui avait lancé un regard glacial. Puis ils avaient commencé une longue discussion sur la recherche des meilleurs moyens de réussir. Le résultat de cette discussion avait été leur départ immédiat pour Paris. Là, les deux hommes choisirent une carrière modeste, toute commerciale. Ils se firent agents et représentants d'une maison brevetée pour un perfectionnement de la gutta-percha, qui devait désormais être utilisée dans tous les domaines imaginables. Elle pouvait chausser les enfants et servir de toit aux cathédrales. Il y a des jours où le génie, tout à la recherche de la pitance journalière, descend des hauteurs. Pendant 12 mois, l'élégant Paget se contenta de faire servir toutes ses facultés à l'éloge perpétuel de l'inimitable, indestructible et incombustible caoutchouc, moyennant une très modeste commission quand il écoulait le produit. Dépenser tant d'éloquence pour mettre dans sa poche quelques sous, ce n'est peut-être pas le dernier mot de la probité, mais dans le commerce, c'est admis. Ce fut seulement lorsque le capitaine eut raisonnablement garni son porte-monnaie, grâce à sa rhétorique, qu'il trouva sa position d'agent et de représentant commercial indigne de lui. Il se décida dès lors à retourner dans son pays natal. À cette époque, les sociétés en commandite commençaient à se multiplier dans le monde des affaires. Or, là où se forment des projets pour attirer les capitaux publics, il y a toujours de la place pour des hommes de la trempe d'Horatio. Ils n'ont besoin que d'une voiture de louage pour donner confiance aux moins téméraires des spéculateurs. L'alliance qui s'établit à Londres entre Sheldon et le capitaine ouvrit à ce dernier des horizons nouveaux, très attrayants. Sheldon était intéressé dans la fondation d'une certaine société en commandite, mais il avait des raisons particulières pour ne pas y apparaître en titre. Un cheval n'est pas chose difficile à trouver sur le marché de Londres, mais un cheval d'allure imposante, qui porte la tête haute, qui a l'air d'avoir de la race, dont la bouche délicate soit sensible, qui ne rue pas, qui ne se cabre pas, ne fasse pas d'écart, c'est une autre affaire. Le capitaine était un cheval de cette espèce, et Sheldon ne fut ni long à le juger, ni à l'utiliser. Il est à peine nécessaire de dire que l'agent de change n'eut néanmoins confiance dans sa nouvelle recrue que juste autant qu'il y fut forcé, et que le capitaine et lui se comprirent à demi-mot sans en avoir l'air. Pour Paget, le soleil de la prospérité se levait avec une splendeur inaccoutumée. Il pouvait payer ses loyers d'hôtel garni, ce qui le rendait respectable. Il avait à ses ordres tous les jours une voiture très propre que les malins seulement reconnaissaient pour un véhicule de remise. Il dînait aux restaurants à la mode, portait des gants et des fleurs à la boutonnière. Pendant que le maître faisait Florès, son subordonné était comparativement oisif. La tournure et les façons patriciennes du capitaine étaient pour celui-ci une perpétuelle source d'observation et de profit. Mais Valentin n'avait rien de pareil sur sa personne. Aussi, la situation que Sheldon avait trouvée pour lui était-elle beaucoup plus incertaine et beaucoup moins productive que celle d'Horatio. Néanmoins, Valentin savait s'en contenter. Il partageait le logis du capitaine, bien qu'ils ne prissent pas leurs dîners ensemble et qu'il ne courût pas avec lui dans sa voiture. Il avait le gîte, la nourriture assurée, et cela étant le plus haut degré de prospérité qu'il eût jamais connu, il ne se plaignait pas. De plus, pour la première fois de sa vie, il savait ce que c'est que le bonheur. Une joie plus pure, plus vive que celle qu'il avait éprouvée jusque-là, le rendait parfaitement indifférent à un dîner, bon ou mauvais, au charme d'une voiture, aux promenades dans la boue. Il ne songeait pas à l'avenir, il oubliait le passé, s'abandonnant de cœur et d'âme aux délices de leur présente. Sheldon ne pouvait rencontrer un instrument à la fois plus docile et moins exigeant. Valentin était toujours prêt à tout pour le beau-père de Charlotte, depuis que ses relations avec ce gentleman lui avaient permis de passer près d'elle une si grande partie de sa vie. Mais malgré cette disposition supérieure de son esprit, Hawkehurst n'était pas moins soumis aux mêmes lois que tous les autres hommes. Il avait besoin d'argent, ses habits étaient usés, et il lui en fallait d'autres pour se présenter devant la femme qu'il aimait. Il avait eu en plusieurs occasions le privilège d'accompagner au théâtre Mrs. Sheldon et les deux jeunes filles. Ce privilège lui avait coûté quelques shillings. Il avait besoin d'argent pour acheter de la musique nouvelle, ce qui lui servait de prétexte pour se présenter à la pelouse. Il avait besoin d'argent pour ceci, pour cela, pour des riens vulgaires, mais ce besoin n'en était pas moins absolu. Un amoureux sans argent est un pauvre être sans force, un chevalier errant sans son armure, un troubadour sans son luth. Dans cette situation embarrassante, Hawkehurst eut recours à la méthode simple que la civilisation a créée pour venir en aide aux difficultés pécuniaires. Il avait plusieurs fois rencontré George à la pelouse, ils étaient même devenus assez intimes, ce gentleman et lui. Valentin savait maintenant que ce gentleman était le Sheldon de Gray's Inn, l'allié et l'agent de certains escompteurs. Il alla un matin voir George, et après lui avoir demandé de ne pas faire connaître sa démarche au capitaine, il lui exposa sa requête. Il ne lui fallait que 30 livres, pour lesquelles il était disposé à souscrire un billet à 2 mois de date avec 25% d'intérêt. L'avocat montra d'abord beaucoup d'hésitation, mais Valentin s'y était attendu, il s'était préparé à un refus. Il fut agréablement surpris lorsque George lui dit qu'il verrait à arranger cette petite affaire s'il souscrivait à un billet de 40 livres. Puis, comme preuve de la libéralité dont on userait envers Hawkehurst, le bienveillant avocat ajouta qu'au lieu de 2 mois, il lui serait accordé 3 mois pour le délai de remboursement. Valentin ne s'arrêta pas à considérer que, par cet amical arrangement, il aurait à payer plus de 30%. Il n'avait pas d'autre moyen de se procurer de l'argent. Il ferma les yeux sur ce que la transaction avait d'onéreux et remercia Sheldon. « Maintenant que nous avons réglé cette petite affaire, je serai bien aise de causer un moment avec vous, » dit George, « étant bien entendu que ce qui sera dit entre vous et moi est strictement confidentiel. C'est entendu. » « Il me semble que vous avez mené une vie passablement oisive ces derniers mois. » Et je vous considère comme un trop habile homme, Mr. Hawkehurst, pour croire que cela puisse vous convenir. En réalité, j'ai jusqu'à un certain point perdu mon temps, répondit insoucieusement Valentin. Le capitaine paraît s'être fait une situation comme agent de votre frère, mais je ne suis pas Horatio Paget. C'est pourquoi la voiture et les gants frais ne sont pas pour moi. « Il y a de l'argent à gagner par d'autres voies qu'agent d'affaires, » insinua l'avocat. « Mais je présume que vous ne vous intéresseriez pas à un travail qui ne produirait pas immédiatement. Vous ne voudriez probablement pas spéculer sur les chances d'une affaire, quelque bon rapport qu'elle pût promettre. »« C'est selon, » avança prudemment Valentin. « Vous savez que les affaires qui promettent tant échouent bien souvent au moment de réussir. Je ne suis pas un capitaliste et je ne puis par conséquent me faire spéculateur. Depuis quelque temps, j'ai vécu au jour le jour avec des articles que j'ai pu donner à un journal de sport et quelques petites affaires que votre frère m'a procurées. J'ai eu l'occasion de lui être de quelque utilité et il m'a promis de m'offrir une place dans un bureau pour la correspondance étrangère ou quelque chose de ce genre. « Hum !» murmura Georges. « Cela veut dire 80 livres par an et 14 heures de travail par jour. Des lettres, des réponses à chaque courrier, c'est un métier de chien. Je ne pense pas que cela puisse vous convenir, Hawkhurst. Vous n'y avez pas été dressé. Vous devriez viser plus haut. Que penseriez-vous d'une affaire qui pourrait vous mettre 200 ou 300 livres dans la poche si elle réussissait ?» Je serais très disposé à la considérer comme un leurre, comme une de ces bulles de savon si brillantes aux rayons du soleil et qui crèvent au moindre choc. Néanmoins, mon cher Sheldon, si vous avez réellement quelque emploi à offrir à un jeune homme qui n'est pas une bête et qui ne donne pas dans les préjugés vulgaires, expliquez-vous clairement. J'y suis disposé, mais ce n'est pas une affaire qui puisse être discutée en 5 minutes. Il s'agit d'une chose sérieuse, qui exige un assez long examen. Je sais que vous êtes homme du monde et ne manquez pas d'habileté, mais aujourd'hui, c'est de la patience qu'il faut. Le lièvre est un bel animal dans son genre, vous savez, mais l'homme qui veut arriver à la fortune en dehors des chemins battus ne fait pas mal d'imiter un peu la tortue. J'ai travaillé, j'ai attendu, j'ai spéculé sur toutes sortes de choses pendant ces dernières années, et je pense que j'ai enfin rencontré une bonne affaire. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de rechercher l'héritier légal d'un homme qui est mort intestat au cours des 10 dernières années. Les deux hommes se regardèrent à ce moment, et Valentin sourit d'une manière significative. Au cours des 10 dernières années, cela fait de la marge, une belle marge. Pensez-vous que vous seriez apte à rétablir les anneaux manquants à la chaîne dans l'histoire d'une famille ? Demanda Sheldon. C'est un travail assez fastidieux et qui exige une dose plus qu'ordinaire de persévérance. Je puis être persévérant, dit résolument Valentin, si vous pouvez me démontrer que le jeu en vaudra la chandelle. Que recevrai-je pendant ces recherches et que gagnerai-je si je parviens à trouver l'héritier ? Je vous donnerai 1 livre par semaine et vous rembourserai vos dépenses de déplacement pendant le temps que vos recherches dureront. Puis je vous donnerai 3 000 livres le jour où l'héritier sera mis en possession de ses droits. Hum, murmura Hawkhurst d'un air assez indécis. 3 000 livres sont très respectables. Mais vous avez à considérer que je puis ne pas découvrir l'héritier, et lors même que j'y parviendrai, il y a 10 à parier contre 1 qu'au dernier moment, cela deviendra une affaire de chancellerie, auquel cas je pourrai attendre ma récompense jusqu'au jour du jugement dernier. Georges leva les épaules avec impatience. Il avait pensé que cet aventurier sans ressources accepterait avec empressement ce qu'il lui offrait. 3 000 livres ne se trouvent pas dans la rue, dit-il. S'il ne vous convient pas de travailler avec moi, je ne suis pas embarrassé pour trouver dans Londres une foule d'hommes énergiques et intelligents qui n'hésiteront pas. Et quand devrais-je commencer ce travail ? Immédiatement. Et comment pourrais-je rembourser 40 livres dans 3 mois si je ne gagne 1 livre par semaine ? Ne vous inquiétez pas de ce billet, dit Sheldon, de l'air de l'homme le plus généreux. Si vous travaillez pour moi, j'arrangerai cette petite affaire. Je vous obtiendrai un renouvellement à 3 mois. Dans ce cas, je suis votre homme. Un travail un peu rude ne m'effraie pas en ce moment, et je puis vivre avec 1 livre par semaine, là où un autre mourrait de faim. Je vous écoute. Donnez vos instructions. Il y eut à ce moment une courte pause, pendant laquelle l'avocat reprit haleine, en arpentant son bureau, les mains dans les poches. Puis il s'assit à son pupitre, prit une feuille de papier à écolier et choisit une plume dans l'encrier. Autant arranger les choses d'une façon régulière. Je présume que vous n'avez pas d'objection à signer un mémorandum de nos conventions. Rien qui puisse servir devant un tribunal, vous comprenez, mais un simple acte entre nous pour notre satisfaction réciproque et prévenir tout malentendu dans l'avenir. J'ai toute raison de vous considérer comme l'homme le plus raisonnable du monde, vous n'en doutez pas, mais un désaccord peut survenir entre les gens les plus honorables. Vous pourriez, par exemple, en cas de réussite, me demander plus que 3 000 livres. C'est vrai, tout comme je pourrais aussi m'entendre avec l'héritier de façon à me débarrasser de vous, peut-être est-ce ce que vous voulez dire. Non, pas exactement. La première moitié de la chaîne est entre mes mains, et sans elle, la seconde ne pourrait servir à rien. Mais pour prévenir tout désagrément, écrivons nos intentions. Je n'y vois pas la moindre objection, répondit Valentin avec une suprême indifférence. Rédigez le mémorandum qu'il vous plaira, et je le signerai. Si vous ne craignez pas le tabac, je serais bien aise de fumer un cigare. La question était une pure formule de politesse, car le cabinet de Georges empestait le tabac. « Fumez tant que vous voulez, dit l'avocat, et si vous voulez prendre un grog, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans cette armoire. Faites comme chez vous. » Hawkhurst refusa le grog et se contenta d'allumer un cigare qu'il prit dans sa poche. Il s'assit près de l'une des fenêtres et se mit à fumer. Il regardait dans le jardin en rêvant pendant que George rédigeait la convention. Il pensait que tout ce qui pourrait l'éloigner de Londres et de Charlotte serait une bonne chose. Lorsque l'avocat eut fini, il lut à haute voix la convention à celui qui allait la signer. Elle était conçue en ces termes. Convention entre George Sheldon, d'une part, et Valentin Hawkhurst, d'autre part. Il a été arrêté ce qui suit. Moyennant le prix d'une livre sterling par semaine pendant la durée de certaines recherches et d'une somme de 3 000 livres qui lui sera payée en cas de réalisation d'un certain événement, notamment la mise en possession d'un héritier légal des propriétés de feu John Haygarth, le dit Valentin Hawkhurst agira comme agent du dit George Sheldon et s'interdit de faire, pendant la durée des présentes conventions, aucun acte qui puisse préjudicier audite recherche et démarche déjà entreprise par le dit George Sheldon. 2. À quelque époque que ce soit, le dit Valentin Hawkhurst ne sera en droit de réclamer une somme plus forte que celle ci-dessus énoncée. Il ne sera pas non plus redevable envers le dit George Sheldon d'aucun remboursement pour l'argent que celui-ci aura pu avancer pendant la durée des recherches, dans l'éventualité où elle n'aurait pas abouti. Le dit Valentin Hawkhurst devra se comporter comme le mandataire fidèle du dit George Sheldon pendant tout le temps sus-indiqué. Il devra remettre au dit George Sheldon tout document ou autre preuve qui pourront résulter de ses investigations. Il sera tenu semaine par semaine et toutes les semaines, et même plus souvent si cela est nécessaire, de rendre compte au dit George Sheldon de ses travaux. Il ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, retenir pour lui les résultats de ses recherches ou en donner connaissance à aucun autre, et ceci sous peine d'une indemnité de 10 000 livres. Laquelle devra être payée au dit George Sheldon, comme étant l'évaluation convenue entre les parties du dommage qui résulterait pour lui de la rupture des présentes conventions par Mr. Valentin Hawkhurst. En foi de quoi, les susnommés ont ce jour, 20 septembre 1862, signé et scellé de leur sceau les présentes conventions. Voilà qui paraît assez solide pour surnager devant un tribunal, dit Valentin. Lorsque George eut achevé sa lecture. « Je ne crois pas que cela ait grande valeur en justice, » répondit négligemment l'avocat, « bien que vous puissiez le trouver formidable. » Lorsqu'on a pris l'habitude de l'argot judiciaire, il n'est pas facile de rédiger les plus simples conventions sans quelques mots superflus. Je puis appeler mon clerc pour attester nos signatures, n'est-ce pas ? Appelez qui vous voudrez. » Le clerc, sommé d'apparaître, sortit d'une petite pièce sans air et sans soleil, située derrière le cabinet de son patron. Les deux hommes signèrent. Le clerc signa aussi pour attester l'authenticité de leur paraphe. Il sortit, puis Sheldon plia la convention et la mit dans l'un des tiroirs de son bureau. « Allons, dit-il gaiement, voilà un bon commencement. Maintenant, nous ferions bien de prendre un grog. » Car ce qui me reste à vous dire exige un certain temps. » Pour cette fois, Hawkhurst accepta l'offre de l'avocat, et il y eut une pause avant que la conversation reprît son cours. Ce fut une très longue conversation. Sheldon produisit une volumineuse liasse de papiers et en communiqua quelques-uns à Valentin, en commençant par l'annonce qui avait la première appelé son attention, mais en se gardant bien de montrer à son collaborateur l'article du journal L'Observeur, dans lequel l'importance de la fortune laissée par l'intestat se trouvait indiquée. Valentin avait eu peu à faire avec les généalogistes et les registres baptismaux, mais sa présence d'esprit le seconda en cette circonstance. Tout de suite, il se montra à la hauteur de l'avocat. « J'ai retrouvé, dit celui-ci, la trace de ces Haygarths en remontant jusqu'à leur bisaïeul, décédé intestat, lequel était un charpentier puritain sous le règne de Charles Ier. Il paraît qu'il avait fait fortune. Comment ? Je n'ai pu le découvrir. » Mais il est plus que probable qu'il avait servi dans les guerres civiles et appartenu à ces bandes de chanteurs de psaumes à la tête rasée, qui ne négligeaient aucune occasion de piller les châteaux des royalistes. Toujours est-il qu'il avait fait fortune, et que son fils, le grand-père de l'intestat, était un riche citoyen sous le règne d'Anne et de Georges Ier. C'était un épicier qui demeurait sur la place du marché à Ullerton, dans le comté de Leicester. Ce n'est plus aujourd'hui qu'une petite ville morte, mais il paraît qu'elle était assez prospère à cette époque. Cet homme, le grand-père, était avantagé en entrant dans le monde, et il réalisa une grosse fortune avant d'en sortir. L'heureux coquin vivait dans un temps où le libre-échange et la concurrence étaient inconnus, où le thé valait quelque chose comme 60 francs la livre, et où un chanteur de psaumes aux cheveux plats, avec une réputation d'homme riche et honnête, pouvait faire des dupes à son aise. Il avait un fils, Matthew, qui, d'après ce que j'ai pu recueillir, paraît avoir été un assez mauvais sujet pendant sa jeunesse et ne fut à aucune époque dans de bons termes avec son religieux papa. Ce Matthew s'est marié à 53 ans et est mort un an après son mariage, laissant lui-même un fils qui, par la suite, est devenu le révérend intestat. Et avec celui-ci, d'après les informations que j'ai pu me procurer jusqu'à présent, s'est éteinte la race directe des Haygarths. Ici, l'avocat fit une pause, tourna deux ou trois papiers, puis il continua. Le dévot épicier Jonathan Haygarth eut un autre enfant, une fille appelée Ruth, qui épousa un certain Peter Judson. Elle devint mère d'une filière de garçons et de filles. Et c'est parmi les descendants de ces Judson que nous pourrions avoir à chercher notre héritier légal, à moins que nous ne le trouvions dans une branche plus rapprochée. À vous dire vrai, j'ai idée que c'est dans une branche plus rapprochée que nous le trouverons. « Et sur quoi fondez-vous cette opinion ?» demanda Valentin. Matthew Haygarth est connu comme ayant eu une conduite désordonnée. J'ai obtenu sur lui un bon nombre d'informations par un pauvre vieux qui est dans un hospice à Ullerton, et dont le grand-père était camarade d'école avec Matthew. C'était un débauché qui vivait à Londres, où il dépensait l'argent pendant que le respectable chanteur de psaumes en amassait à Ullerton. Il y avait sans cesse des disputes entre ces deux hommes, et sur la fin, le vieux Jonathan Haygarth fit une demi-douzaine de testaments en faveur d'une demi-douzaine d'individus, par lesquels il déshéritait complètement le dissipateur Matthew. Heureusement pour ce mauvais sujet de Matthew, le vieux avait l'habitude de se fâcher avec ses meilleurs amis, mode qui n'est pas entièrement perdue, malgré les lumières du XIXe siècle, si bien que ses testaments furent brûlés les uns après les autres, jusqu'à ce que le digne Jonathan devint aussi impotent et faible d'esprit que son illustre contemporain et homonyme, le doyen de Saint-Patrick. Il fut enlevé par une attaque d'apoplexie et mourut absolument intestat, d'où il résulta que le débauché de Soho et de Covent Garden, Matthew, hérita d'une très belle fortune. C'est en 1766 que le bonhomme mourut à 80 ans. C'était un bel échantillon de ces bons vieux commerçants anglais de l'école puritaine. Matthew avait alors 46 ans, et je présume qu'il était fatigué de son existence débraillée. Quoi qu'il en soit, il paraît s'être établi très tranquillement dans la vieille maison de ses pères, sur la place du marché à Ullerton. Il s'est marié environ 7 ans après avec une respectable demoiselle, également de l'école puritaine. Maintenant, mon cher Hawkhurst, vous qui êtes un homme perspicace et habile, je n'en doute pas, à deviner les énigmes sociales, vous commencez peut-être à comprendre mon idée. Non, je n'y suis pas du tout. Dans mon opinion, les hommes de l'espèce de Matthew Haygarth arrivent rarement à l'âge de 50 ans sans être pris d'une manière ou d'une autre dans les filets du mariage. Les jeunes gens étaient moins prudents alors et se laissaient aller aux déceptions de l'amour plus facilement qu'aujourd'hui. Le fait que Matthew Haygarth n'ait jamais révélé ce mariage précédent ne détruit pas mon hypothèse. D'après le dire du vieil homme de l'hospice de Ullerton, ce Matthew était un fort bel homme, au cœur chaud, loyal, un bon diable, un type de roman ou de comédie, un de ces hommes qui, avant 20 ans, deviennent éperdument amoureux et traverseraient l'eau et le feu par amour pour leur belle. En un mot, le gaillard le moins bien fait pour rester garçon jusqu'à 53 ans. Mais il se peut que c'ait été un viveur, allez-vous dire, et qu'il ait aimé sans la permission de l'église ou de la municipalité. En fait, les informations que l'on peut obtenir sur un homme décédé en 1774 sont nécessairement fort incertaines et incomplètes. Mais si je puis m'en rapporter aux souvenirs passablement nébuleux de mon vieil habitant, Matthew Haygarth n'était pas un homme vicieux. Il n'existe contre lui aucune légende d'innocence trahie, de fillette menée à mal. Il paraît avoir joui de la vie comme les jeunes gens de cette époque, faisant combattre des coqs, rossant le guet, jouant un peu et connaissant à fond l'intérieur des prisons pour dettes. Il a dû rester à Londres une 20aine d'années, et pendant ce temps-là, les habitants d'Ullerton l'ont perdu de vue. Le grand-père de mon vieil habitant était commis chez un marchand de la City de Londres, ce qui fait qu'il a été à même de connaître la conduite dans la métropole de son ancien camarade de classe. Toutefois, les deux citadins n'avaient pas des rapports suivis. Ils se rencontraient rarement, ne se voyaient qu'accidentellement. Comme vous le voyez, Mr. Hawkhurst, j'ai déjà consacré beaucoup de temps à l'étude de cette affaire, et vous trouverez le terrain très aplani si vous le comparez à ce qu'il était quand j'ai commencé à le déblayer. Je pense que c'est surtout dans les commencements que ces sortes d'investigations doivent être difficiles. « Vous le jureriez si vous aviez passé par là, » répondit Georges d'un ton presque irrité. « Vous vous mettez en train avec l'extrait mortuaire de quelque vieille carcasse, si affreusement vieille, lorsqu'elle a consenti à mourir, qu'il n'y a plus au monde personne qui puisse vous dire l'époque de sa naissance, ni quels étaient ses pères et mères, car, naturellement, le vieil idiot a eu soin de ne pas laisser le moindre document qui puisse faciliter notre besogne. Puis, quand vous aurez fait la chasse à une 12 de personnes du même nom, que vous vous serez creusé la cervelle pour rassembler par un lien quelconque cette 12 d'individus qui ont pris à des époques différentes des chemins différents, ils s'éparpilleront tous comme la poussière au vent. Vous en serez pour vos frais, et vous vous trouverez rejeté plus loin que jamais de celui que vous cherchez. En tout cas, vous n'avez pas à faire un semblable travail, dit Sheldon, qui contenait mal sa colère en pensant aux difficultés qu'il avait eues à vaincre. Le terrain se trouve pour vous aussi aplani que celui d'un parterre à la française, et vous attraperez vos 3000 livres avant d'avoir eu le temps de vous y reconnaître. J'espère y arriver, répondit froidement Valentin. Il n'était pas homme à s'enflammer à la pensée de réaliser 3000 livres, bien que cette somme eût pu lui apparaître comme la fortune d'un petit Rothschild. Mais pour en revenir à ce Matthew Haygarth, votre idée est donc qu'il a pu faire un mariage antérieur à celui de Ullerton. Précisément, je pense que nous devrions poursuivre l'histoire de la vie de Matthew Haygarth à Londres et tâcher de découvrir là notre héritier avant de nous mettre en quête des Judson. Si l'on savait où et comment les Judson se sont mariés et multipliés avant de se perdre dans la foule, on n'aurait pas tant de peine à retrouver les ramifications de leur arbre généalogique, dit Sheldon avec un profond soupir. Ainsi soit-il, s'exclama insoucieusement Hawkhurst, oublions les Judson et piquons des deux sur Matthew Haygarth. Il parlait avec l'assurance d'un Hercule généalogiste pour lequel les obstacles n'existent pas. Il semblait aussi prêt à agir que si Georges l'eût assuré que le plus proche parent de l'intestat était un Plantagenet. Déjà, il était sur le pied de camaraderie avec le fils de l'épicier, comme si c'eût été un vieil ami. « Matthew Haygarth, voilà ce qu'il nous faut. Mais comment ferons-nous pour découvrir ces faits et gestes à Londres? Un homme qui est né en 1720 est un bien vieil animal. Le secret du succès dans ces sortes d'affaires est le temps, répondit sentencieusement l'avocat. Il faut qu'un homme ait tout son temps à lui et le cerveau libre de toute autre préoccupation. Ces deux conditions sont impossibles à réunir en ce qui me concerne. Et voilà pourquoi j'ai besoin d'un collaborateur. Or, vous êtes un habile garçon, sans profession, libre comme l'air, autant que je puis en juger. Ergo, vous êtes le Merle Blanc. Nous réussirons, considérez la chose comme certaine, ce n'est qu'une question de temps. Donnez à un balayeur des rues du temps, et vous pourrez en faire un Rothschild. Il se peut qu'il ait besoin de 900 ans pour y parvenir, mais donnez-les-lui et il arrivera. Sheldon devenait expansif sous l'influence des grogs. « Pour ce qui concerne ce Haygarth, reprit-il après avoir bu encore, le succès est certain si nous nous y prenons bien. »« 3 000 livres ne sont pas à dédaigner, reprit George d'un ton persuasif, lors même qu'on est obligé de les attendre un peu. »« Certainement non, et le montant de la fortune des Haygarth, je suppose que ce doit être quelque chose de très respectable, répliqua Valentin sur le même ton. « Parbleu, répondit Sheldon avec réserve. Autrement, comment pourrais-je vous allouer 3 000 livres sur la part que j'espère en obtenir ?»« Assurément. Je pense que je me tirerai assez bien de cette affaire lorsque j'y aurai mis la main, mais je serai bien aise d'avoir vos instructions pour commencer. »« Eh bien, allez d'abord à Ullerton, voir mon vieil habitant. Je n'ai pas eu assez de temps pour épuiser cette source. » Il faut avoir une éternité à y consacrer avant de pouvoir faire jaillir quelque chose de cette vieille cervelle fêlée. Poursuivez ce Matthew depuis sa naissance, visitez le lieu où il est né, fouillez tous les détails de sa vie, suivez-le pas à pas jusqu'à son départ pour Londres, et quand vous l'aurez rejoint là, attachez-vous à lui comme une sangsue, ne le laissez pas échapper de vos doigts un seul jour, traînez-le de logement en logement, de taverne en taverne, à son entrée en prison et à sa sortie, au galop, sans souffler, bravement. Je sais bien que c'est un métier de chien, mais il faut rudement travailler par les temps qui courent pour gagner 3 000 livres. En deux mots, le gibier est là devant vous, fondez sur lui, pressez-le, conclut Sheldon, en se préparant un dernier grog qu'il avala d'un trait.